Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, un nouveau rendez-vous donné avec D-Residence pour un double vernissage qui aura lieu le 11 octobre, dimanche, donc à 16h jusqu'à 20h. Et sera invité pour cette exposition, une double exposition d'ailleurs, de Elisabeth Sonneck. Bonjour.
Bonjour.
Donc invité par Connie. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et puis invité aussi Lucie Chaumont et Nadine Alibert pour présenter un assemblage qu'elles ont produit à Berlin.
C'est ça, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, toutes les quatre, comment allez-vous ?
Ah tiens, quelle bonne question. à peu près. Ça va à peu près, non ?
Non, ouais, ça va.
Ouais.
Ouais. Un peu coincé, mais ça va.
Cette exposition n'a pas de titre, en somme.
Il y a deux expositions, du coup, et il va avoir deux titres.
Ouais. Alors, on peut commencer par Elisabeth Sonneck. Bonjour. Vous proposez une exposition sur quel aspect ?
Ich komme als Malerin, die sich in die
Elisabeth, elle est peintre. Elle est venue comme peintre, du coup, dans une région où il y a une lumière assez spéciale, une très belle lumière. Et la lumière et la couleur, elle dit que du coup, cette peintre, elle peint abstrait. Du coup, c'est ça, en fait, couleur et lumière, c'est son métier. Et après, elle travaille avec le lieu. Chez nous, c'est D-Residence. C'est une vieux bâtiment, plus que 100 ans. Et elle a cherché des choses dans le lieu pour travailler avec. Ça veut dire que ça peut être un balai, ça peut être une pelle. Il utilise ça dans son installation de peintures, sans juger, mais pour soutenir la peinture, pour le mettre en équilibre.
C'est-à-dire que l'objet sert comme instrument à peindre ou alors c'est l'objet qui est peint ?
Ja, diese Gerätschaften sind das, was ich finde. Das ist eigentlich nichts, was mit der Malerei zu tun hat.
Alors, en fait, c'est pas un instrument pour peindre, mais c'est plutôt un dialogue ou une juxtaposition avec des choses vraiment différentes. En fait, il y a la peinture abstraite qui est très douce, qui est très. Qui est un processus d'une long terme. Après, elle met en contraste ou, comme elle dit aussi, en collision avec ces objets qu'elle trouve, qui sont plus à leur rôle d'habitude. Et en fait, parce qu'elle met pas des clous dans les murs, genre pour mettre une peinture sur le mur, mais elle montre dans le lieu. Et cette collision des deux choses qui ne vont pas ensemble, ça l'intéresse, c'est peut-être un peu genre Duchamp, mais il y a toujours la peinture.
Donc c'est ça aussi, c'est la présentation des peintures, elles ne se font pas au mur, elles ne sont pas accrochées du moins, donc elles sont dans un dialogue avec un objet, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Vous parliez d'être d'une région en Allemagne avec une lumière particulière, on peut savoir laquelle ?
Ja, das kann ich gut sagen, weil der Unterschied groß ist. Also in Berlin würde ich sagen, ist das Licht, wie man vielleicht auch für ganz Norddeutschland sagen kann, eher silbrig, eher grau.
Und hier hat es einfach pour elle c'est facile. Elle trouve qu'il y a une grande différence entre la lumière à Berlin ou dans le nord d'Allemagne, qu'il est plutôt argenté et gris. Ici, il y a beaucoup plus de contraste et beaucoup plus de couleurs, mais c'est quand même difficile à expliquer plus en détail, mais elle a dit qu'il faudrait venir à Berlin pour voir.
Es gibt auch ein ganz schönes Beispiel des französischen Malers Pierre Bonnard.
Et si vous n'allez pas à Berlin, elle recommande de regarder Pierre Bonnard, qui était un super coloriste et qui une fois, il était aussi à Hambourg pour peindre là-bas. Et ça a changé beaucoup sa palette. Et du coup, peut-être à la médiathèque, on pourrait trouver un catalogue de Bonnard avec une peinture allemande.
Sur Pierre Bonnard, justement, il y a des peintures, des grandes toiles, au Musée d'art moderne de Paris, par exemple, où on a, j'ai l'impression de voir le déroulement d'une journée avec sa lumière qui transforme les couleurs. Est-ce que c'est cette impression-là aussi? Quelle est la durée de la lumière pour Elisabeth?
Ja, das betrifft eigentlich den gesamten Impressionismus, wie auch Claude Monet.
Und das ist eigentlich elle n'est pas comme un impressionniste, mais en même temps, elle adore ces nuances de couleurs. Elle travaille avec ça beaucoup. Et elle décrit que la couleur, elle est très labile, peut-être. On peut dire ça, labile. C'est pas stable, mais non, au contraire. Et du coup, c'est aussi difficile de la définir avec des mots, en fait, de la décrire avec des mots. Et la couleur, pour elle, elle fait une comparaison avec la vie. Que, en fait, ça change comme la vie. La couleur, elle est très dynamique et elle est toujours aussi dans un contexte. Et c'est pour ça aussi qu'elle met en dialogue avec des objets qui n'ont rien à voir avec eux pour qu'on ait une autre perspective sur un autre contexte.
Je vais passer à la perruque aussi, présenter Lucie et Nadine. La perruque, vous étiez déjà passé pour vous présenter ce duo, on peut dire ça?
On peut dire ça. On travaille
en
binôme depuis une dizaine d'années.
Vous proposez là pour cette exposition quel type de travail?
Alors, on va présenter... un assemblage d'objets, d'images, de vidéos et de dessins.
Qu'on peut mettre au singulier, souvent. Ouais.
Voilà, donc, et tout ça, en fait, est rapporté de Berlin, où on a passé un mois, au mois d'août dernier, là. Et voilà, donc en fait, c'est le résultat de notre travail à Berlin.
Donc un travail de chasse, de chasseuse,
d'arpenteuse.
Arpenteuse,
pisteuse.
Arpenteuse, pisteuse.
Vous avez énormément circulé dans Berlin.
Dans un quartier de Berlin, dans le quartier de Lichtenberg, où se situe le musée qui nous accueillait. Et on a été à la recherche de la nature dans la ville, les traces du vivant.
Et on s'est plus spécifiquement intéressé à la présence du renard urbain, qu'en définitive, on n'a pas croisé. Mais le renard est devenu un objet, une forme à rechercher et à tenter de découvrir dans la ville. Puisqu'en fait, il se trouve que Berlin compte parmi ses habitants un grand nombre de renards qui se sont installés dans la ville. On a cherché le renard. Nous, on ne l'a pas trouvé, mais on nous a raconté des histoires de renards où pas mal de gens qu'on a rencontrés nous ont dit avoir vu des renards.
Moi aussi, dans plusieurs quartiers.
Et voilà. Et du coup, nous, on s'est intéressé de manière plus large dans nos observations aux espaces verts, jardins publics, parcs, jardins familiaux et terrains vagues. Donc dans nos arpentages du district de Lichtenberg, on s'est rendu dans ce type d'espace. Et on y a plus particulièrement observé des traces de passage. Donc passage humain ou passage d'animaux, en tout cas de non-humains, on ne sait pas trop, mais on a procédé à un relevé photographique de toutes ces pistes qu'on a pu découvrir dans les espaces dont on a parlé là. Donc ça, c'est une partie du travail qu'on va présenter qui va être présenté sous forme de diaporama.
En fait, toutes ces pistes, elles c'est une érosion, en fait. Mm. Toutes ces pistes, c'est une érosion, soit des pelouses, soit des chemins, soit des clôtures. Mais en fait,
qui sont dues au passage répété d'être humain ou non humain, on ne sait pas trop. Et du coup, ce qui nous a intéressé, c'est cette ambiguïté de se dire, est-ce que c'est des humains, est-ce que c'est d'autres animaux qui sont passés par là, on ne sait pas.
Et moi, j'ai le sentiment que quand on dit qu'on a pisté le renard, pour moi, c'est plus le renard, il synthétise le sauvage dans la ville. Mais il synthétise, oui, en fait, tout ce qui peut être sauvage dans la ville et qu'on s'est attaché au renard. Mais ça aurait pu être un sanglier ou ça aurait pu, parce qu'on a appris qu'il y avait beaucoup de sangliers aussi qui rentraient dans Berlin.
Et en fait, moi, ce que me vient avec ça, c'est qu'en anglais, en fait, on dit pour ces pistes qu'on a fait avec nos pieds qui sont à côté du chemin, desire path. Ça veut dire que c'est le chemin du désir. Parce qu'on veut prendre le chemin plus court ou plus joli. Ou, voilà. Et c'est, du coup, c'est quelqu'un qui dit, c'est nous qui décide ça, ou les animaux. Et je trouve que ce terme est très, très beau. Et en plus, voilà, le renard, si c'est une symbole du sauvage dans la ville, c'est ça, en fait. En fait, ce n'est pas forcément sauvage, mais quand même, on ne respecte pas le chemin qui est imposé, mais on fait ce qu'on veut, en fait. Et du coup, c'est le côté sauvage aussi.
Alors, c'est marrant, parce que ce qui est intéressant, c'est que là, on constate que ces chemins du désir, ces chemins de désir, dans la ville, on prend tous le même.
Ouais.
Donc, on fait ce qu'on veut, mais on fait tous la même chose.
Ouais. Mais pas ce qui est imposé.
Mais pas ce qui est goudronné, en tout cas.
Ouais, c'est ça.
Et les voies de circulation normales sont aussi fréquentées quand même, hein ?
Ouais.
Après, nous, on s'est intéressé donc au renard, mais aussi à la superposition des couches de vivant, en fait. C'est-à-dire le sauvage dans la ville, la nature dans la ville, l'humain dans la ville et les différentes catégories d'humains dans la ville.
Oui, parce que Berlin a une particularité, je crois qu'il y a énormément d'espaces verts aussi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ce sont des quartiers qui sont un peu perdus dans de la végétation, en quelque sorte.
Fait, ouais.
Donc, il y a un mariage entre l'urbanité et la nature.
Oui, puis nous, c'est ce qui nous a aussi saisis d'emblée. Parce que voilà, c'était pas simple pour nous ça faisait un moment l'une et l'autre qu'on n'était pas, qu'on n'avait plus passé de temps dans des grandes villes. Et voilà, et du coup, on était un peu dans l'appréhension, on peut le dire, un peu de se retrouver à devoir rester comme ça, à vivre, à passer un mois dans une grande ville. Et je pense que voilà, de manière très intuitive, on s'est orienté vers les espaces verts parce que déjà, on en avait
besoin. On est allé là où il y avait des orties. Il fallait qu'il y ait des orties.
donc ça, en fait, ça a démarré comme ça, de manière assez intuitive, sur un besoin propre, quoi. Voilà.
Est-ce que votre quête et votre recherche donc d'objets vous a contenté, ou alors il y a des choses que vous auriez voulu ramener et qui n'étaient pas possibles, genre un renard?
On a rapporté un renard, en fait.
On a fait un masque, parce qu'en fait, avec Lucie, on fait des interventions masquées. Et enfin, je peux dire intervention, mais...
Ouais, on peut dire ça, on peut dire performance.
Performance masquée. Mmh. Et du coup, il y a toujours l'une d'entre nous qui porte un masque. Là, en l'occurrence, du coup, à Berlin, on a fabriqué un masque de renard et qu'on a porté tour à tour l'une et l'autre. Et on a fait une vidéo dont le renard fait partie de l'image. En tout cas, ce personnage mi-homme, mi-renard, fait partie de l'image.
Ben oui, on a choisi. En fait, c'est pour aller un peu plus, être peut-être un peu plus concrète avec la vidéo dont tu parles. En fait, on a, dans tous nos arpentages et nos prospections, on a trouvé un site qui condensait un peu tout ce qu'on avait observé, qui se situe autour d'une gare de S-Bahn à Berlin. Donc c'est comme une gare de RER, quoi. Et autour de cette gare, donc il y a la gare, les trains qui passent, les passagers qui vont et qui viennent aux heures de pointe, etc. Une piste cyclable qui passe devant, un grand parking à vélo, parce que voilà, à Berlin, il y a beaucoup de vélos. Plusieurs terrains vagues, des friches industrielles, et puis une sorte de petit parc qui ressemble à une petite forêt, parce que souvent, les parcs à Berlin sont comme des petites forêts.
Du ciel,
voilà. Et du coup, on s'est focalisé sur cet espace. Et là, on a fait plusieurs interventions dans l'espace public. L'intervention du personnage, de la créature masquée renard, voilà, qu'on a mise en place dans un petit terrain vague qui se situe devant la gare. Et donc, on a à partir de ça. Donc ça, c'est l'objet de la performance et on l'a filmé. Donc ça, le résultat, c'est une vidéo qui sera montrée dans l'installation. Et on a fait aussi un affichage dans l'espace public d'une série de questions qu'on avait trouvées dans un dépliant de sensibilisation à la présence du renard urbain. Donc pour qu'en gros, les humains... quelques pistes pour pouvoir adopter un bon comportement quand ils croisent un renard dans la ville. On a extrait une série de questions de ce questionnaire, des questions qui nous intéressaient parce qu'elles étaient un peu ambiguës ou ambivalentes. Elles posent la question de la réaction qu'on doit avoir quand on croise un renard. Alors pour nous, c'était un peu... ça pose la question de comment on doit se comporter quand on croise quelque chose qui est étrange ou étranger. Donc
Parce qu'en l'occurrence, le contexte de ce petit questionnaire, il se pose beaucoup par rapport au jardin et à l'espace privé, l'espace qui est privatisé par un humain. Mmh. Donc c'est pour ça que là, du coup, effectivement, le fait d'avoir une clôture et d'avoir son espace gardé, on a assez vite, on a vu l'ambivalence des questions. Comme qu'est-ce que je fais de ce qui est étranger à mon jardin ? Qu'est-ce que je fais si un renard s'est installé dans mon jardin ? Et qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'un renard peut voler des choses dans mon jardin ? Voilà, c'est du coup c'est ce type de questions-là qu'on a sorti du questionnaire. Et on trouvait ça intéressant par rapport à toutes les par rapport à l'actualité mondiale, la question des frontières. La question du vivant qui circule, qu'on ne peut pas empêcher de circuler, le vivant à micro-échelle, à nano-échelle, à l'échelle du virus et à l'échelle de l'homme. Voilà, c'est...
Et quel comportement...
On a ? Est-ce qu'on ferme ? Est-ce qu'on ouvre ?
Par rapport à ça.
Est-ce qu'on est détendu ? Est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est stressé ?
Au début de l'émission, je vous posais la question si vous alliez bien. Si vous allez bien. Comment était la vie à Berlin sous cette contrainte sanitaire ?
C'était plutôt assez détendu. La contrainte sanitaire était plutôt assez détendue. En revenant chez nous, en fait, en arrivant en ville, c'était plus présent, en fait. C'était étonnant, mais en revenant sur notre territoire sur notre territoire, ça nous, il y avait quelque chose qui s'était un petit peu fermé, en fait, ici.
Ben, alors qu'en
ville à Berlin,
fermé,
ça avait été beaucoup plus.
On pourra parler de la présence policière sur le marché, par exemple.
Voilà, oui. Ouais.
dans ce cas très précis.
Ouais. La répression. Non,
pour raconter une anecdote. En revenant de Berlin, où effectivement, on a trouvé que le climat était globalement beaucoup plus détendu qu'en France. C'est peut-être aussi dû au fait qu'on est étrangère, mais on a
les Berlinois ont inventé des choses, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passaient dehors, c'est-à-dire qu'on ne se croisait plus dedans. finalement, on rentre assez peu dans les espaces et que beaucoup de choses se passaient à l'extérieur. Et plein de choses étaient inventées. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de place. Il y a de la place pour circuler, on est à vélo, on n'a pas pris les transports en commun. Effectivement, peut-être que dans les transports en commun, on aurait.
Connie, c'est de ton fait d'avoir invité donc Elisabeth Sonneck et La Perruque. C'était pour opérer un dialogue entre deux modes d'expression.
En fait, c'est toujours un peu par hasard que il y a en fait. Il y a deux expos, cette double expo, parce que on fait un échange avec mon partenaire, les Lichtenberg Studios à Berlin, et c'est Uwe Jonas, mon partenaire là-bas, qui me propose des artistes, et moi je propose des artistes, et du coup on peut choisir entre quelque peu artistes. Et après, c'est pas choisi pour avoir un expo qui marche, où les deux projets marchent super bien ensemble. C'est juste de présenter deux propositions, en fait. Ouais, deux projets. Et chaque fois, en fait, pour l'instant, ça a bien marché. Et je crois que ça a bien marché. Et en plus, quand les projets ne sont pas trop proches, il y a toujours quelque chose qu'on aime bien, en fait. C'est intéressant parce que les deux dernières fois où on a fait l'échange, c'était aussi assez différent. Les positions ont été assez différentes. Et les gens, ils ont aimé parce qu'il y avait quelque chose qu'ils ont... Voilà, une position, ils ont aimé, l'autre pas. Et voilà, c'est comme ça. En tout cas, je trouve ça intéressant. Mais ce n'est pas un choix curatoriel.
Je reviens aussi sur l'aspect de l'art contemporain et d'orientation féministe. C'est aussi The Residence accueille quand même beaucoup plus d'artistes féminins.
Oui, en fait, on privilégie les artistes féminins, ou surtout moi, mais Uwe a compris ça et il me soutient dans ça aussi. Parce que, voilà, surtout avec les enfants, on est toujours un peu bloqué pendant un certain temps. Et après, dans l'art, quand on n'est pas toujours dans les vernissages et on ne se présente pas toujours, on risque d'être oublié par les curateurs, par les amis, par les directeurs de musée ou directrices de musée. Et je voudrais pas changer ça, bien sûr, c'est un petit programme, mais travailler un peu contre ça. Et aussi, en été, j'ai ce programme qui n'est pas un échange, c'est juste, j'invite un artiste avec enfants. Et c'est justement aussi plutôt pour aider les femmes artistes pour qui puissent redécouvrir leur métier, en fait, ou continuer leur métier avec enfants.
Elisabeth Sonneck, comment êtes-vous arrivée à Die par le biais de cet échange d'artistes entre Berlin et Die?
Ja, eigentlich wie Conny eben schon gesagt hat, also
Elle était choisie par ou proposée par Uwe Jonas de Lichtenberg Studios. Et ce qu'il souligne aussi, c'est que justement ce choix, il n'était pas fait pour présenter deux positions genre en même temps qui se marient forcément, mais que ce sont plutôt deux projets qui se déroulent plutôt en même temps, presque en même temps, mais pas tout à fait parce que les Français, ils vivent un peu avant, toujours à Berlin, pour pouvoir montrer leur projet ici. Du coup, ils se voient aussi une fois à Berlin en général, et ils se voient après ici. Concrètement, au Lichtenberg Studios, dans cette résidence, les artistes, ils sont demandés de travailler avec le quartier. Ouais, c'est pas de rester dans l'atelier dedans pour faire genre la peinture ou quelque chose, mais d'aller dehors et pour faire référence à ce qu'ils voient dans le quartier et avec le quotidien. Et Elisabeth elle-même en venant de Berlin. Elle a fait une fois une résidence dans le Lichtmeck Studios aussi, ce qui paraît drôle. Mais en fait, c'est vraiment un quartier qui est différent de son quartier à elle. Et du coup, ça l'a beaucoup plu aussi d'expérimenter une autre Berlin. Et de justement aussi travailler avec un autre espace, un autre contexte.
Les œuvres que Elisabeth Sonneck peint, de quelle manière elle opère, installée au sol ou au mur ou sur chevalet?
Ja, die Staffelei habe ich seit meinem Studium nicht mehr berührt und eigentlich im Studium auch nicht.
Elisabeth, elle travaille par terre, en fait, sur le sol. Elle accroche pas, elle prend pas le petit en bois là. Et en fait, ça l'intéresse de toute façon, en fait, en général dans l'art, les travaux qui sont par terre. Et elle a aussi des châssis avec des toiles accrochées, tout ça, mais aussi ça, elle met par terre. Et elle travaille par terre. Beaucoup, en fait, ce qui est aussi assez caractéristique pour elle, c'est qu'elle travaille sur papier. Et elle travaille sur un grand rouleau qu'on sent avec un très gros pinceau. Et justement, c'est plutôt la partie gestique. Mais c'est en fait, ouais, c'est pas pour moi. Voilà, ça c'est ma interprétation. Je vais traduire, bien sûr. Et en fait, avec ses pinceaux, elle met des couches un par autre. Et c'est la peinture, elle est très diluée, elle est très fine. Et elle met pas beaucoup de peinture sur le pinceau. Du coup, c'est une petite couche qui est transparente un peu. Et en fait, la couleur finale. Elle est composée du ton et de plusieurs couches. Du coup, on voit les nuances et on voit très bien ce qu'elle a décrit avant, la fragilité de la couleur et la dynamique de la couleur. Et que ça a toujours ça crée des liens avec l'autour, avec le contexte et que
Que devient la perspective dans le travail de peinture de Elisabeth?
Damit ist jetzt gemeint, wie sich
dans son travail la perspective, elle, vu qu'elle est abstrait, la perspective, elle n'a pas une vraie place, mais quand même, comme elle travaille, en fait, il y a des il y a quand même aussi dans la couleur une sorte d'espace parce que c'est de plusieurs couches et du coup, il y a quand même une sorte de trois-dimensionnalité, si on veut. En fait, dans l'image, il y a des espaces dans l'image, mais ça vient de la couleur. Mais le processus, comme elle travaille, c'est très lié au corporel, parce qu'elle n'utilise pas de règles ou autre chose pour peut-être allonger le pinceau. En fait, c'est vraiment son bras, sa main, le pinceau et son corps, parce que voilà, elle est souvent avec les pieds très, très écartés sur la peinture. Et du coup, cette geste qu'elle fait, elle est limitée par son corps. Et c'est ce qu'elle a vraiment aussi étudié. Du coup, il y a certains formats qu'elle fait parce que c'est son corps qui limite cette geste, parce qu'il ne veut pas faire en plusieurs fois ou avec des outils qui l'aident.
Eigentlich kann man auch sagen, dass die Perspektive vor allem beim Betrachter liegt, weil die Malerei.
Alors elle ajoute dans sa peinture, la perspective, elle a pas une vraie rôle, comme on a dit, mais vu dans l'installation, elle en a en fait un rôle, parce que c'est dans l'espace et c'est justement aussi une juxtaposition avec des objets un peu bizarres, mais aussi vraiment elle travaille avec l'espace. C'est toujours quelque chose qui est aussi inhérent de son œuvre. Et après, avec le déplacement des visiteurs, ils changent leur perspective. Et du coup, il y a quand même une place à cette perspective. Mais c'est une perspective vraiment subjective et qui change aussi en se déplaçant. Et c'est ce qu'elle aime bien de pas avoir un visiteur ou une visiteuse. Je sais pas, qui genre passive comme dans les musées, juste réception, mais qui est aussi actif et qui peut découvrir un peu l'œuvre et changer l'œuvre justement avec la perspective qu'ils prennent et qu'ils préfèrent.
Pour terminer avec Elisabeth, je suppose que on peut voir de votre travail sur Internet.
Ja, das kann man. Auf der Website und bei Instagram auch. Also es gibt viele Abbildungen.
C'est possible. On peut voir son travail sur Internet. Elle a un site. C'est www.elisabeth-sonek.
Minus-sonek.
Ouais, point de.
Point de.
Ja. De. Et elle a aussi un compte Instagram. Avec son nom, vous allez le trouver.
Aber ich muss dazu sagen, also so.
Mais il ajoute que, en fait, c'est quand même toujours mieux de voir sur place parce que justement, le mouvement et l'être dans l'espace, ça, on ne peut pas bien représenter avec la photo.
Fotos nicht übertragen. Also, ich möchte es nicht überbewerten, was im Internet generell zu sehen ist.
Quelle est l'idée de cette confrontation entre vos peintures et celle de l'objet?
Ja, das hat sich eigentlich erst allmählich durch die Arbeit ergeben.
En fait, cette manière de travailler, c'est venu petit à petit, mais ça fait quand même pas mal du temps. Genre, je crois qu'elle m'a dit une fois, 2012, elle a pu commencer avec ces sortes d'installations. Et c'est bien justement par ce problème de la couleur que... Elle peut pas on ne peut pas la définir, on ne peut pas la attraper et la conserver là comme ça et la tenir. Elle est toujours en échange avec autre chose, en fait, avec son contexte, comme on a dit avant. Et du coup, pour elle, c'était clair que elle doit travailler avec l'autour, avec le contexte, parce que la peinture ou en fait la couleur, elle a demandé genre, et pour ça que c'était naturel de extenser son travail ou le faire communiquer encore plus ou plus pointu avec l'espace. Elle a dit une phrase que c'était très beau, qu'elle du coup elle s'éloigne de la peinture, mais avec la peinture, parce que voilà, elle l'emmène. Mais ces objets-là qu'il utilise, c'est pas comme Rauschenberg, Robert Rauschenberg, un grand peintre américain, qui l'a aussi peint les objets. Elle laisse les objets tels quels, comme une contrepart. Elle dit aussi qu'elle aime ces objets, parce que pour elle, ils ont du sens. Ils sont justes à cause de leur couleur, à cause de leur forme. Et ces constellations qu'elle fait, ils ne sont pas toujours fixes. Ces objets trouvés, elles peuvent aussi avoir lieu, en fait, être utilisés dans des autres contextes. C'est une manière de travailler très fluide avec les objets.
Lucie et Nadine, ce séjour à Berlin a nourri votre inspiration pour un bon moment ?
Oui, déjà, il nous a permis de nous remettre au travail ensemble, parce que là, on a eu une période d'interruption. Voilà, donc ça nous a permis de remettre le pied à l'étrier, ce qui était vraiment une très bonne chose. Et puis de reprendre le travail dans un contexte autre, on est libéré de nos vies quotidiennes et voilà, du contexte dans lequel on vit. C'était important, en fait. Voilà, ça nous a permis de faire un peu un décentrement ou un pas de côté. Et c'est vrai que le fait d'être dans un contexte autre, ça ouvre des possibilités, ouais. Donc ça, c'était vraiment, vraiment bien, ouais. J'aimerais bien ajouter quelque chose, moi, à propos de ce que fait Connie avec D-Residence. Parce que voilà, c'est juste pour dire qu'on a un peu une représentation de l'art contemporain, qui est un art urbain des grandes villes, qui se déroule dans les grandes institutions ou dans les galeries d'art, etc. Donc quelque chose qui est un peu comme ça, quelque chose des grandes métropoles, quoi. Et que du coup, je trouve que le travail que fait Connie avec D-Residence et du coup l'échange avec Berlin, c'est vraiment important pour ce qu'on vit ici dans le Diwa. Voilà, parce que l'art contemporain, c'est avant tout des arts plastiques et de l'art visuel, et c'est des artistes d'aujourd'hui, quoi. Et en l'occurrence, là, c'est des artistes d'aujourd'hui qui vivent dans le Diwa et qui sont aussi impliqués dans leur communauté à tout un tas de niveaux. Voilà. Donc du coup, moi, je trouve que c'est vraiment essentiel que la proposition de Connie, parce que ça permet de découvrir des propositions artistiques dans le champ des arts visuels qui se font sur ce territoire-là, quoi. Voilà. Et puis aussi, ça permet un croisement entre la campagne et la ville. Et ça, je trouve qu'aussi pour les artistes berlinois et berlinoises qui peuvent venir ici, je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors du coup, on pourrait demander à Elisabeth, son ressenti de ce qu'elle perçoit du Diwa. Mais du coup, ça crée des ponts et des ouvertures entre la ville et la campagne. Et ça, je trouve que c'est super, super important aujourd'hui.
Un site internet pour découvrir le travail de la perruque aussi
Pour l'instant, non.
En cours.
Donc,
venez
dimanche 11 octobre découvrir le travail en chair et en os, si je puis dire.
En papier, carton et vidéo.
Et donc, vous serez toutes présentes. Alors, commencez par Lucie Chaumont, Elisabeth Sonnec et Nadine Alibert pour cette exposition le 11 octobre qui dure jusqu'au 16, hein, je crois.
Oui, oui.
Et pour le 11 octobre, donc, il y aura de quoi se rafraîchir. Hein.
Oui, on ne fait pas, comme toujours, le repas partagé parce que c'est... Ouais.
Tout le monde
on
sait pas... pourquoi.
Ouais, c'est ça. Mais on a quelque chose à boire et on fait tout dans les limites imposées.
Ouais. On boit tous dans la même paille.
C'est ça.
Avec les obligations sanitaires d'actualité. Hein.
Oui, c'est
voilà.
Ça.
Eh bien, je vous remercie toutes les quatre d'être venues nous présenter cette exposition nouvelle à D-Residence. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
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 Au revoir.